Et le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Renault va fermer sa concession de Vaux-en-Velin près de Lyon fin décembre. La situation économique et la réputation du quartier sont évoquées pour justifier cette décision, des propos blessants pour la population. Elle avait été filmée en train d'agresser un pompier lors des manifs du 1er mai. Elle devait être jugée hier, mais l'audience est reportée. Le temps pour cette femme de préparer sa défense. L'Union fait la force si le PS entérine ce soir le projet d'alliance avec la France Insoumise. Une victoire aux législatives serait alors possible. La gauche unie a toujours gagné. Plusieurs dates de l'histoire le prouvent. Taïwan a peur d'être l'Ukraine de la Chine. L'île en tire les enseignements, accélère les préparatifs si d'aventure Pékin se lançait à l'assaut. Et puis ce jeudi 4 mai, c'est la journée Louis-Ferdinand Céline sorti de guerre. C'est son roman inédit en librairie. Et puis coup d'envoi d'une exposition.
Notre invité dans 20 minutes, le réalisateur et grand reporter Lou Bureau, il signe Tranché, un documentaire consacré à la guerre dans le Donbass, documentaire qui sort en salle mercredi prochain. Il est avec nous à 7h50.
France Inter.
Vive émotion à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise.
La succursale Renault, située face à l'hippodrome, va fermer ses portes à la fin de l'année. Le groupe automobile a justifié sa décision mi-avril devant les élus du comité économique et social. Et ce sont les raisons invoquées qui ont créé la polémique, car Renault aurait évoqué un manque de rentabilité dû notamment à l'insécurité du quartier et aux faibles revenus de la population. C'est le reportage de Ninoc Louis.
La fermeture, Racim Karadavu ne s'y attendait pas.
C'est un coup de massue.
Et les raisons invoquées dans un premier temps par Renault, encore moins.
Ils insultent la population de Vaux-en-Velin. En gros, ils les traitent de pauvres. Ça veut dire quoi? Une marque populaire comme Renault qui insulte sa clientèle. Ça se fait pas.
Un premier rapport interne consacré à la fermeture mentionne le niveau de vie faible des habitants, l'insécurité supposée de la zone. Très vite supprimés, ces termes ont malgré tout choqué les salariés. Karim Benouna travaille ici depuis 22 ans.
Zone de l'endroit de trafic de machines. Vous voyez, moi je porte pas un gilet pare-balles, je n'ai jamais été agressé ou quel que soit, j'ai jamais senti une insécurité.
Renault a présenté ses excuses, les 105 salariés, eux seront redéployés dans les trois autres sites du groupe en région lyonnaise. Insuffisant, répond la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy.
C'est insupportable que l'on stigmatise les habitants de Vaux-en-Velin ainsi. Nous avons des sièges d'entreprises qui s'installent et je ne laisserai pas Renault défaire le travail de tous les acteurs publics, des chefs d'entreprise, des habitants de la commune. J'exige des explications sur les raisons de son départ. En tout cas, ça ne peut pas être sur ce qu'il prétend être une question d'insécurité.
Une demande à laquelle s'est jointe la préfecture du Rhône. Une réunion avec Renault est prévue en fin de semaine. Lyon, Ninoc Louis, France Inter.
C'est l'une des vidéos les plus partagées de la manifestation parisienne du 1er mai, celle de cette femme soupçonnée de frapper un pompier qui intervient sur un incendie. La manifestante devait être jugée hier en comparution immédiate, mais l'affaire a finalement été renvoyée au 1er juin prochain, le temps de préparer sa défense. D'ici là, elle reste sous contrôle judiciaire, mais ce premier rendez-vous a déjà été pour ses avocates une occasion, Ariane Grissel, de déplorer la pression médiatique sur ce dossier.
La femme qui entre dans le box est à milieu de la manifestante vue sur la vidéo. Yeux cernés, cheveux en chignon, elle murmure ses réponses, se prend régulièrement la tête dans les mains, comme quand le procureur demande son placement en détention provisoire. Il y a une instrumentalisation de ce dossier. À quelle fin? Je l'ignore, plaide à l'audience son avocate Alice Becker avant de s'en expliquer à la sortie.
Les comparitions immédiates en général sont réservées à des gens qui sont multirécidivistes, qui n'ont pas de garantie de représentation, exactement le contraire du profil de madame. Dès lors, ces réquisitions ne pouvaient s'expliquer que par l'emballement médiatique qui a entouré cette affaire. Heureusement que le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions et a prononcé un contrôle judiciaire normal.
L'avocate regrette des fuites dans le dossier, mais la médiatisation n'est pas le fait des enquêteurs, estime pour sa part Jérôme Andréhi, l'avocat du pompier.
C'est malheureusement le jeu des réseaux sociaux. La vidéo, elle a été rapidement diffusée de manière virale, et désormais c'est comme ça. Et puis, me semble-t-il que du côté des proches de cette dame, il y a aussi eu des interviews données sur des plateaux télé qui ont entretenu cette médiatisation.
Pour ce qui est des faits eux-mêmes, tout juste apprend-on que la prévenue en conteste une partie. Ses arguments seront examinés en juin. D'ici là, la mère de famille a interdiction de manifester à Paris. Interrogée pendant l'audience quant au fait de savoir si elle comptait retourner dans un cortège, elle secoue la tête. Non, dit-elle, ça c'est sûr, à 100%.
Ariane Grissel.
7h34, le Parti Socialiste va-t-il imploser?
Le suspense reste entier car son Parlement interne doit valider ou pas ce soir l'accord accord noué avec la France insoumise. Rien n'est évident car plusieurs ténors socialistes ne veulent pas de cet accord qui a déjà provoqué le départ du parti de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Et si tout se passe bien, comme l'espèrent les négociateurs des deux camps, la gauche partira en position de force pour les législatives du mois prochain, car à chaque fois, l'Union a fait la force, 1936, 1981, 1997, on remonte le temps avec Anne Souhaitemont.
3 mai 36, le Front Populaire, composé de la SFIO, du Parti Radical et du Parti Communiste, remporte une victoire historique aux législatives. Léon Blum prend la tête d'un gouvernement qui mettra en place la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés.
Le gouvernement sait la difficulté de sa tâche, il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal.
1972, la gauche se rassemble à nouveau autour d'un programme commun. 39 heures, retraite à 60 ans, grâce à un accord historique entre le socialiste François Mitterrand.
Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement.
Et le communiste Georges Marchais.
C'est un événement d'une très grande importance.
Rejoint ensuite par les radicaux, le programme commun permet le retour de la gauche au pouvoir en 80.
François Mitterrand est élu président de la République.
1997, après une dissolution surprise décidée par Jacques Chirac, coup de théâtre, la gauche plurielle remporte les législatives. Lionel Jospin devient Premier ministre de cohabitation d'un gouvernement composé de socialistes, de communistes et d'écologistes.
Le président de la République a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté.
3 précédents d'union de la gauche qui ont débouché à chaque fois sur une victoire.
Anne Souhaitemont, en Ukraine, un cessez-le-feu de 3 jours doit entrer en vigueur autour de la Syrie de Marioupol. Les Russes vont ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer les civils qui sont encore terrés dans les sous-sols de l'usine Azovstal.
Un pays observe de très près cette guerre en Ukraine, c'est Taïwan.
Oui, car les 24 millions d'habitants vivent sous la menace constante d'une invasion par la Chine, puisque Pékin considère l'île démocratique comme une partie de son territoire à reprendre un jour et par la force si nécessaire. D'où depuis le début de l'invasion russe, les formations de premiers secours et de défense civile qui se sont multipliées à Taïwan. Notre correspondant Adrien Simor s'est rendu à l'un de ses ateliers à Taipei.
3 corps étendus au sol, des fusils mitrailleurs et des grenades en plastique. Pas de panique, la scène n'est qu'un exercice organisé par l'association Maïdike dans le centre de Taipei. Chen Bohan, ancien militaire, est responsable de la formation.
Nous apprenons participants les gestes de premier secours en temps de guerre. L'objectif, c'est que si un jour Taïwan se retrouve dans la même situation que l'Ukraine, les participants pourront prendre les choses en main et porter secours aux blessés.
Comme l'Ukraine, Taïwan est revendiqué par son puissant voisin, la Chine communiste. Un projet d'annexion pourtant rejeté par 90% des Taïwanais, comme Madame Lin, ingénieure informatique de 34 ans.
Avec la guerre en Ukraine, je réalise que Taïwan pourrait aussi devenir une zone de guerre. Je veux apprendre comment protéger mes proches et défendre mon pays.
Pour assurer sa défense, Taïwan compte pourtant sur une armée de 200 000 soldats et sur les armes fournies par les États-Unis. Mais la formation de la population reste tabou, comme l'explique Guan Ting, 27 ans.
Le gouvernement ne met pas l'accent sur la formation des civils. Je me dis si nous ne sommes pas capables de nous défendre seuls, alors qui le fera à notre place ?
Selon les renseignements taïwanais, la Chine n'envisagerait pas d'opération militaire avant au moins 2024. De quoi laisser le temps aux Taïwanais de renforcer leur défense et tout faire pour dissuader la Chine. Taipei, Adrien Simor, France Inter.
Zelensky, autant responsable de la guerre que Poutine, dans un entretien au Time, l'ex-président brésilien Lula pointe du doigt le président ukrainien. Une guerre n'a jamais un seul coupable, dit l'icône de la gauche brésilienne dans le magazine américain. Il voulait la guerre, s'il n'en voulait pas, il aurait négocié un peu plus. Lula accuse par ailleurs les puissances occidentales d'inciter à la haine contre Poutine. Et selon lui, le président américain aurait pu éviter le conflit, prendre l'avion pour Moscou, parler à Poutine. C'est ce genre d'attitude qu'on attend d'un leader, explique Lula au magazine Time. La nouvelle a été annoncée en grande pompe en Colombie. Le plus grand narcotrafiquant du pays, Otoniel, chef du clan del Golfo, est extradé vers les États-Unis. Un tribunal de New York réclamait ce paysan de 50 ans, passé par la guérilla de gauche, puis par les milices paramilitaires d'extrême droite, avant de devenir le nouvel Escobar sud-américain. Otoniel, dont la tête était mise à prix à 5 millions de dollars par les États-Unis, avait été arrêté en octobre dernier en Colombie. La Colombie, premier pays producteur de cocaïne, et les États-Unis son principal marché. Le sport à présent avec l'affiche de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai prochain au Stade de France. Et bien ce sera Real Madrid-Liverpool. Le Real a battu hier soir Manchester City 3-1 après les prolongations. Et Karim Benzema a marqué le but de la qualification sur pénalty à la 95e minute.
Il était très attendu et le monde de l'édition est en ébullition.
Car c'est ce jeudi 5 mai et non 4 mai, comme je le disais au début de ce journal, que sort en librairie ce roman inédit de Louis-Ferdinand Céline, roman sur la Grande Guerre de 14-18. Un livre et aussi en même temps une exposition sur les fameux manuscrits retrouvés l'été dernier, dont justement Guerre, le roman en question. Une exposition qui démarre pour 2 mois et demi à la Galerie Gallimard à Paris. On peut y voir, Ilana Mor-Youssef, des feuillets retrouvés, des documents et des objets plus personnels issus des archives de l'écrivain.
Certes, il était pacifiste, il détestait la guerre. Le roman qui paraît aujourd'hui le montre bien assez. Il n'empêche, Céline avait obtenu 2 médailles militaires, il en était fier, il est même allé jusqu'à les faire encadrer lui-même. Ces médailles sont présentées juste à côté des feuillets de guerre. Alban Cerisier, le commissaire de l'exposition.
Là, on a les manuscrits de guerre. Je dirais que la beauté de ce qui a été trouvé là, c'est qu'on trouve du Céline à l'état pur, avec aussi la part de violence, d'emportement qu'il y a dans l'écriture. Mais ça correspond à la violence aussi de ce qu'il raconte.
À la fin de guerre, Ferdinand, le héros, embarque pour Londres.
C'est réel, puisqu'effectivement, Céline part à Londres en 15. Et dans Londres, il raconte à quel point ce lieu-là a été d'une certaine façon l'endroit du salut. Et donc, c'est le roman du salut. On a vécu le pire, on est des traumatisés perpétuels, mais il reste un peu d'espoir.
Londres, la suite de guerre, paraîtra fin août. À côté des manuscrits, on découvre, plus insolite, le masque mortuaire de Céline. Ou encore ces quelques mots griffonnés sur un vieux dossier.
Céline, sur cette chemise qu'il a récupérée à la ville de Clichy, dans le cadre de ses activités médicales, écrit cette phrase « Vos contemporains vous envoient en prison, leurs descendants au Panthéon ». Tout s'arrange.
Pas tout à fait en réalité, puisqu'aujourd'hui encore, Céline provoque à la fois admiration et répulsion.
Ilana Mor-Youssef, une exposition Céline jusqu'à mi-juillet à la Galerie Gallimard à Paris.
Laurence Thomas pour ce journal. L'édito politique est à suivre.